Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, entre ses mains.
Notre Bible, et je vous propose que nous fassions notre lecture dans Jérémie, chapitre 18. Alors, livre du prophète Jérémie, chapitre 18, et on va lire quelques versets. Ça va être le sujet de notre méditation. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots : Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voilà, c'est une image, c'est une parabole, et naturellement tout cela illustre une grande vérité que nous allons mettre en réflexion ce soir. Et nous voyons que le prophète Jérémie est sollicité par Dieu tout simplement à aller voir ce qui se passe dans la maison de l'artisan potier. En d'autres termes, c'est tout simplement, il est convié à regarder et à écouter, parce que je pense que s'il va dans cette maison de potier, c'est que non seulement il va voir, mais probablement que le potier va lui donner des explications de ses gestes, de la manière finalement dont il travaille. Probablement peut-être lui donner quelques éléments sur l'argile et sa qualité, et puis toutes sortes, en effet, de principes liés à la fabrication d'un vase. Et je pense que ça vaut aussi pour nous, en quelque sorte, de regarder dans notre imagination. Nous avons probablement, à un moment ou un autre dans notre vie, vu certainement un potier à l'ouvrage, puis d'écouter ce que Dieu a à nous dire, comment, en effet, le potier travaille l'argile. Alors, on peut se l'imaginer dès maintenant. Et je voudrais dire que cette parole a été donnée pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent à un moment ou un autre de leur vie dans des situations difficiles. Et peut-être ce que nous avons besoin de ne jamais oublier, ce que j'appellerais la chose essentielle et primordiale à savoir, c'est être entre les mains du potier. Voilà, ça pourrait être en quelque sorte le titre de notre méditation ce soir. Être entre les mains de celui qui est en train de nous faire, de nous donner, de nous façonner une nouvelle vie. Et je pense que de le savoir, quelles que soient les circonstances, ça c'est une aide, certainement, pour affronter les épreuves et les difficultés, de savoir que nous ne sommes pas tout seuls. Quelle impression nous pouvons avoir ? Comme l'argile qui est au milieu du tour et qui tourne, naturellement, quelle impression pouvons-nous avoir lorsque on se sent nous-mêmes au milieu du tour, de l'épreuve, de l'affliction, de toutes sortes de choses semblables ? Et peut-être avons-nous le sentiment que ça tourne trop vite ? Quelquefois, lorsque les choses vont mal, lorsque nous sommes mal pris, eh bien, on a le sentiment comme, passez-moi l'expression, mais comme d'être dans un manège en folie. Vous savez, il y a quelquefois des situations où on est pris un petit peu par la force centrifuge. Et plus on tourne, plus ça va vite. Et vous savez ce qui arrive quand c'est comme ça ? C'est qu'on n'a plus de repères. On perd finalement son équilibre. On est saisi de mal-être ou de malaise. C'est tout à fait logique. Et nous savons que lorsque ça s'arrête, il faut reprendre nos esprits parce que finalement tout a été un petit peu bougé, tout a été un petit peu chamboulé. C'est souvent des situations quand on ne contrôle plus rien. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à ce moment-là ? En tous les cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que le maître potier, lui, si vous le voyez assis à sa table, devant son tour, il se sert de ses mains. Mais imaginez, aujourd'hui c'est peut-être naturellement mécanisé, mais du temps de Jérémie et à travers certainement des siècles et des siècles, et encore dans certains pays ça doit être la même chose. En tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne se sort pas seulement de ses mains, il se sert aussi de son pied. Parce qu'il a comme une pédale, et son pied sous la table, eh bien, contrôle le tour. C'est lui qui donne la rotation. C'est lui qui donne la vitesse en fonction de ce que ses mains font. On peut voir cet homme avec son grand tablier, une masse d'argile devant lui, et là, à ce moment-là, eh bien, donner toute la forme, façonner, rectifier, modeler. Et c'est en fonction, naturellement, de son geste, mais également de la vitesse du tour, que le vase, eh bien, va prendre de la hauteur et naturellement, la forme. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si nous nous comparons un petit peu à cette masse d'argile, c'est ce que nous sommes, puisque la Bible nous dit que nous sommes poussière, et que Dieu s'intéresse à la poussière des hommes. Il s'intéresse à notre néant, à finalement, eh bien, malheureusement, notre triste état dans cette humanité. Et il y en a un qui voudrait bien mettre le pied sur la pédale, c'est l'ennemi. Parce que son but, c'est justement d'appuyer sur le mécanisme. On peut l'appeler tentation. On peut l'appeler d'une manière ou d'une autre pour nous rendre fous. Parce que finalement, l'épreuve, l'affliction, que ce soit d'une manière ou d'une autre, que ce soit la souffrance, la peine, le chagrin, ou que ce soit la jouissance, son but c'est de nous rendre fous, parce qu'à tourner comme cela, tant dans la jouissance que dans la souffrance, eh bien ça rend les hommes, ils perdent leur équilibre, ça devient de la passion, ça devient quelque chose où finalement nous n'avons plus de repères, où il n'y a plus de principe, parce que lui il voudrait appuyer justement sur le mécanisme et nous amener à passer par-dessus bord, c'est-à-dire à sortir du tour. Vous savez, quand on tourne certainement un tour de potier trop vite, ça s'en va un peu dans tous les sens. Si vous ne mettez pas les mains, si le potier ne met pas les mains sur l'argile, alors à un moment donné, ça va s'en aller dans tous les sens. Et c'est bien ce qu'il veut faire aussi. Nous amener à sortir du tour. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que c'est le potier qui nous a pris en ses mains, qui nous a mis au milieu, et c'est lui qui va nous tenir au milieu pour une bonne raison. Parce que je reviens à l'ennemi. Le but de la création humaine, nous qui sommes sortis des mains de Dieu par le principe créationnel, c'est finalement faire de chacun d'entre nous, cette argile humaine, eh bien tout simplement des rebuts. On voit le travail de désintégration qu'il fait dans le monde. On voit comment il est capable de prendre une créature, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui que ce soit, et de l'amener à la dépravation, de l'amener à la corruption, de l'amener à la grossièreté, à la vulgarité, de l'amener à faire des choses monstrueuses et odieuses. Donc, faire de cette argile, eh bien, du rebut. Et malheureusement, je crois que ça s'est vu dans tous les temps, ça se voit encore aujourd'hui, lorsque nous considérons, et certaines personnes, quelquefois, de les voir dans la dégradation où ils se trouvent, de les voir dans la misère où ils se trouvent, là où peut-être ils sont les artisans de leur situation, de dire, mais quelle a été la vie de cet homme et de cette femme avant, soit par l'alcool, soit par toutes sortes de choses. Et on se dit, c'est véritablement, eh bien, quelque part un vase ou une poterie qui a raté. Mais on se souvient, et je le rappelle maintenant, c'est que nous sommes entre ses mains. Alors on va continuer dans cette pensée. Moi je voudrais vous dire que, quelle que soit notre condition, c'est que Dieu ne s'arrête pas à nos impuretés. Vous savez que dans l'argile, il y a toutes sortes de scories, il y a toutes sortes de particules qui peuvent défigurer un vase lorsqu'il va être à la cuisson. Et il est important de choisir un argile qui a été purifié, qui a été nettoyé. Et nous voyons qu'une chose qui est certaine, et nous le voyons à travers tout le message glorieux de l'Évangile, de voir comment Jésus s'est pas forcément occupé de ceux qui se tenaient propres. Je pense aux pharisiens, à ce monde religieux orgueilleux, pédant, écrasant les autres. Mais il s'est tourné particulièrement vers les argiles qui étaient là dans les bas-fonds, dans la rue. On connaît naturellement tous ces personnages qui défilent devant nos yeux lorsque nous lisons le Nouveau Testament. Alors il ne s'est pas arrêté justement à l'impureté, il ne s'est pas arrêté au péché des hommes, il ne s'est pas arrêté aussi à nos résistances. Parce que quelquefois il y a des argiles qui sont plus dures. Alors pour les assouplir, il faut mettre de l'eau, il faut bien l'humidifier pour arriver à l'avoir bien en main. Il faut qu'il n'y ait aucune aspérité. Alors impureté, résistance, imperfection, nous voyons que ce maître potier s'est engagé simplement à nous façonner puisqu'il nous a pris. C'est pas nous qui sommes allés à lui, c'est lui qui est venu vers nous. Alors, il veut nous façonner et faire de chacun et de chacune tout simplement un vase d'honneur. C'est l'apôtre Paul qui le dit, qu'il nous a bien mis de côté pour que nous puissions l'honorer, le servir. Un vase en fabrication. Un vase qui va avoir une destination. Et je dirais qu'en entendant cette parole ce soir, notre avenir se joue entre ses mains, nous qui l'entendons. Je dis qu'à chaque fois que quelqu'un lit la Bible pour la première fois ou découvre le message de l'Évangile, son avenir est en train de se jouer entre les mains de celui qui non seulement nous parle, nous interpelle, nous adresse la parole et son appel, mais par-delà sa parole, il est en train de faire un travail, dans la mesure où nous sommes pas à côté de ses mains, mais nous sommes vraiment entre ses mains, si nous voulons seulement, simplement, être souple, flexible et docile. J'ajouterai ceci, c'est que Dieu n'abandonne jamais son projet de vie pour chacun. Et peut-être si vous vous interrogez et vous posez des questions, le jour où Dieu vous a appelé et vous a choisi, il vous a choisi pour toujours. Comme un jour il avait choisi des hommes dans la Bible, comme un jour il avait choisi un peuple, alors ces hommes sont toujours restés des hommes sous le regard de Dieu, dans le cœur de Dieu, et le peuple d'Israël, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore aujourd'hui, reste quand même le peuple de Dieu. Et cela veut nous dire une chose tout à fait particulière dont nous avons besoin de prendre conscience, c'est qu'il a formé des projets pour les uns et pour les autres. Et je dirais à la limite, et au-delà de la limite, c'est que son plan est prédéterminé. Vous savez ce que c'est que prédéterminé? Et je prendrai un autre mot, mieux encore, son plan non seulement est prédéterminé, mais il est prévu. Vous savez ce que veut dire le mot prévoir, le verbe prévoir? Et je dis, il est prévu, c'est-à-dire qu'il est vu avant. Vous savez que Dieu, dans sa sagesse et dans sa connaissance de toutes choses, nous voit dès maintenant comme si nous étions fini. Ouais. Un potier, quand il prend une masse d'argile, moi vous me mettez devant un tour avec une masse d'argile, je serais bien en peine de savoir ce que je vais faire. Je ne sais pas, j'ai jamais fait ce genre de choses, mais toujours est-il que le potier, quand il prend cette masse et qu'il la met sur son tour et qu'il commence à travailler, je veux bien croire qu'il va y avoir une inspiration en fonction de la souplesse de l'argile et puis toutes sortes de choses, mais il a déjà une idée en tête, il sait ce qu'il va faire. Si c'est un vase qui va servir pour un usage vil, ou si c'est un vase qui va servir d'ornementation. Si c'est une commande particulière, elle a déjà son idée. Eh bien, pour Dieu, en nous appelant, il a déjà une idée de ce que nous sommes, de ce que nous serons. Nous, nous sommes à l'état d'existence maintenant. Je pense qu'il y a déjà du chemin parcouru pour chacun d'entre nous. Mais il reste, je l'espère, pour les uns et pour les autres, certainement un bout de route à faire. Mais le maître potier va s'employer à faire en sorte, quitte à accélérer un petit peu la vitesse du tour à un moment donné, peut-être dans les derniers moments de notre vie, pour nous terminer et nous finir. On n'arrivera pas inachevé de l'autre côté. Dans la mesure où nous gardons la foi, dans la mesure où nous restons sur le tour, dans la mesure où nous restons flexibles en disant « Seigneur, malgré mes résistances », parce que personne ne peut dire qu'il ne résiste pas, d'une façon ou d'une autre, et de dire « Eh bien Seigneur, tu vas faire ton œuvre ». Donc, c'est prévu, et prévu, c'est voir déjà fini et parfait, parce que il est tout bonnement, parce que le maître potier est tout bonnement présent sur le tour de notre vie. Il n'y a pas de contestation possible. On emploie le mot prévision. C'est ce que ça veut dire, les prévisions. Les prévisions météorologiques. Oui, elles ne sont pas toujours l'exactitude lorsque ça arrive. On vous annonce un beau soleil et puis après vous avez une pluie battante. Je sais que ça ferait plaisir à certains. Mais toujours est-il que c'est ça les prévisions politiques. Alors là aussi on a des surprises. Les prévisions économiques, je vous dis pas. Mais les prévisions de Dieu, c'est autre chose. C'est que là, il n'y a aucun défaut. C'est vu, c'est une vision avant. Et ça, c'est réconfortant de le savoir. C'est quelque chose de formidable. Alors, pour dire tout simplement que, quelle que soit la façon dont nous sommes abîmés, les uns et les autres dans notre vie d'homme, permettez-moi de dire que le potier peut nous récupérer. Il y a des gens qui désespèrent en disant « Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi ?» Certains diront « Mais moi je suis venu entendre l'évangile, mais j'ai une telle honte. Je me sens tellement impur et souillé que ce n'est pas possible. » Eh bien, il faut entendre encore l'évangile, parce que pour lui, eh bien, c'est encore dans son pouvoir. Moi je dis qu'aucun d'entre nous n'est trop loin de la main guérissante, la main bénissante et réparatrice, finalement, du Seigneur. Dieu est toujours prêt à prendre nos vies gâchées et à les remodeler, à les refaçonner, à les refaire pour nous transformer tout simplement en vase nouveau qu'il aura choisi lui-même et nous modelant selon ses vues et ce qui sera le meilleur pour nous. Ça, c'est quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse en prêchant l'Évangile, c'est d'encourager les gens. De susciter de la foi par la parole et d'encourager les gens. Ça fait partie de... Vous savez, chaque prédicateur a un style. Il a une aptitude qu'il a reçue de Dieu, quelque chose. Mais moi, je ne conçois pas l'Évangile quand les gens repartent complètement à genoux et en disant « Bah, il n'y a plus trop d'espoir. » Nous ne sommes pas appelés à rentrer dans une religion ou adhérer à une religion, nous sommes appelés à vivre une nouvelle naissance. Et c'est ça. Bien sûr, on tient compte de l'ancienne vie. Bien sûr, le Seigneur tient compte du péché. Il tient compte de tout ça. Mais il nous demande de regarder, finalement, à ses capacités infinies pour faire de nous, eh bien, des vases nouveaux, tout simplement. Je vous donne un exemple. C'est que la Bible foisonne l'histoire d'hommes et de femmes au bénéfice. Ce que j'appellerais pudiquement une deuxième chance, ou si vous aimez mieux, évangéliquement parlant, eh bien là, au bénéfice de la grâce. Vous savez qu'on se souvient de Moïse qui a tué un homme, mais Dieu l'a restauré. Il aurait pu rester meurtrier. Mais Dieu l'a restauré et en a fait un chef, un leader, un prince pour Israël, et un homme qui se caractérisait par sa patience et son dynamisme pour entraîner toute une nation dans la foi après lui. Dieu aurait pu dire, bon, t'as commis l'irréparable, c'est pas la peine d'aller plus loin. Regardez par exemple un homme comme Pierre. Pierre renie Jésus. Mais à un moment donné, il se remet sur le tour. Il ne peut pas rester comme ça. Il avait fui à un moment donné. Il se remet sur le tour du potier et il revient vers le Seigneur. Vous connaissez les histoires de Jean, de l'apôtre Jean, qui nous rapporte ça dans son évangile sur le lac de Tibériade. Vous savez, la deuxième pêche miraculeuse. Hein, ça, c'est une belle histoire. Alors, il est revenu vers Jésus. Et vous savez ce que Jésus en a fait? Il en a fait un puissant apôtre pour l'Église chrétienne naissante. Alors, il y a encore de la chance, hein, il y a encore de la grâce. Je prends l'exemple de Saul de Tarse, beaucoup plus connu sous le nom de Paul, qui allait ici et là, qui était un homme fanatisé, il était persécuteur et il assassinait également les chrétiens. Mais nous voyons qu'à un moment donné, ce même Dieu qu'il avait vu agir dans son zèle, dans sa cruauté, dans toutes sortes de choses, ce même Dieu l'appelle et lui offre sa grâce sur le chemin de Damas. Et quand Saul de Tarse répond à l'appel de Dieu, qu'il accepte à ce moment-là de croire que Jésus est le Fils de Dieu, sa vie change. Et c'est quand même à lui que Dieu va lui confier d'écrire 13 épîtres, qui va être le fondement et la base, la doctrine, finalement, le monument doctrinal, eh bien, de la foi des chrétiens à travers tous les temps. Nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, le maître potier transforme Saul de Tarse, le meurtrier, dans un autre vase. Il va le transformer en un autre vase, et c'est ce même Paul, devenu Paul à ce moment-là, qui va rendre ce témoignage. Il dira, et Dieu lui dira ceci pour lui montrer la mission, parce que c'est une prévision, ça avait été prévu, Dieu va lui dire, « Maintenant tu peux aller, car moi, toi Paul, je t'ai choisi, et je t'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations, à leur roi et au peuple d'Israël. » Et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu un des plus grands apôtres que le monde n'ait jamais connu, l'apôtre Paul. Ça, c'est quelque chose. Alors, voyez, ce vase restauré est devenu un puissant conducteur chrétien. Et nous savons que, heureusement que nous avons sa conversion. Heureusement que nous avons eu la connaissance comment Dieu a fait avec lui. Pourtant, il devait avoir de la résistance. Hein. C'était un opiniâtre, Paul. Un homme qui ne capitulait pas comme cela. Et pourtant, eh bien, Dieu a eu raison de lui. Son argile et cette argile étaient racornies, étaient impossible à travailler, mais Dieu a su le prendre. Je dis qu'une transformation, et c'est ça le message de l'Évangile, une transformation analogue comme les hommes d'hier, encore aujourd'hui, est possible pour quiconque veut croire en Jésus-Christ et coopère avec lui, ou laisse le Saint-Esprit finalement faire son œuvre à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, Paul le dira, il l'écrira en lettres de feu. Je lis cette parole qu'il laisse pour nous. Il nous est dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, s'il appartient à Jésus-Christ, s'il est uni au Christ, il est un être nouveau, un homme nouveau. Et il pourra parler de lui-même, il dira « mais ce qui est ancien a disparu ». Parce que maintenant, comme je suis né de nouveau, eh bien je suis une nouvelle créature. Et ça c'est pour tous les hommes. Ça c'est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire du potier. Moi je dis que Dieu s'emploie à faire grâce. Dieu s'emploie sans relâche et sans se résigner à tendre la main aux hommes. Tout à l'heure, j'ai parlé de seconde chance. Seconde chance, c'est un langage tout à fait populaire et mondain. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que quand on s'imagine que dans le monde, dans la vie, dans toute l'actualité aujourd'hui, vous savez, quand un homme ou une femme, dans un domaine ou dans un autre, a fait une erreur, a commis peut-être quelque chose, certes de grave, on lui donne pas sa chance. Hein. Le coupable paie, c'est tout. Hein. Ça, c'est la justice des hommes, œil pour œil, dent pour dent. Mais avec Dieu, c'est différent. Avec Dieu, il en va autrement. Quand je dis seconde chance, je parlerai d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième essai, si vous voulez. Oui. Ça revient un petit peu à cette parabole que Jésus nous laisse. Quand Pierre lui dit « Mais jusqu'à quand pourrais-je pardonner ?» Alors il lui dit « Tu pardonnes autant de fois. » Eh bien, la deuxième ou la dixième ou la centième chance que Dieu nous laisse, c'est qu'il est infini dans son pardon. Parce que c'est nous qui sommes les offenseurs. Et lui, il est l'offensé. Donc, à chaque fois qu'il y a un retour, qu'il y a une détermination de dire, « Eh bien, Seigneur, je me remets entre tes mains. » Souvent, on est honteux hein, quand on revient dans la maison du potier. On est sale comme de l'argile. Hein. On est plein d'aspérité, plein de choses comme ça, en disant, « Seigneur, allez, prends-moi. » Et je vais être entre tes mains, parce qu'il y a encore des choses qui doivent disparaître de ma vie. Ouais. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que le potier, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui connaît son travail. Que l'argile soit vrillée, qu'elle soit affaissée, eh bien, il est capable, finalement, et de la reprendre. Et ce message, avant tout, c'est un message d'espoir, d'espérance de vie. Ça, c'est important que les gens entendent ça. Vous savez que, dès les premières pages de la Bible, ça partait mal. Parce que, on lit cette parole en ce qui concerne Adam, et tout de suite après la faute, Dieu lui rappellera de quelle matière, de quelle pâte, de quelle argile il est fait, poussière. Et vous savez que le premier Adam a péché, hein, ça on le sait. Mais dans la Bible, et sous la plume de l'apôtre Paul, qui naturellement lui en était passé par là, eh bien nous annonce et nous fait savoir qu'il y a eu un premier Adam, mais il y en a un deuxième. Un deuxième Adam qui est venu rétablir les hommes et les femmes dans leur destinée première. Le premier a chuté, le deuxième a triomphé. Et entre quelles mains nous voulons-nous mettre? Entre les mains du premier, qui nous conduit et qui nous conduira toujours vers la destruction, où il n'y aura que la vanité au bout de notre vie, il n'y aura pas de sens à notre existence, ou alors nous venons à ce deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, qui a payé ce qu'il fallait. Lui, il n'est pas monté sur un tour, il est monté sur une croix. Mais son sacrifice a fait le tour du monde. Pour que tous les cœurs, pour que toutes les consciences, pour que les esprits des hommes soient réceptifs au Saint-Esprit et entendent que rien n'est définitivement perdu. C'est ce même Jésus qui a guéri l'homme qui avait la main sèche. Vous savez, en tous les cas, moi je veux dire que Dieu n'a pas la main sèche. Il a toute la docilité, toute la tendresse et toute la chaleur, justement, pour nous prendre. Et il était capable également de ressusciter ce qui était mort. Vous connaissez l'histoire de Lazare, hein? Eh bien, c'est bien ça, justement. Parce qu'il n'est pas question de transformation approximative. Il n'est pas question d'amélioration, mais il est question réellement de résurrection. Ouais. De faire d'une masse inerte, d'une masse uniforme, de faire quelque chose qui ait véritablement un sens. Et le jour où, je dirais, Jésus a fait véritablement la chose la plus extraordinaire, qui n'avait jamais été vue, qui n'avait jamais été faite dans le monde, bien qu'il y ait eu quelques exceptions, mais là c'était pour nous montrer la puissance de Dieu, la puissance du divin ou du maître potier, c'est qu'un jour il a ressuscité un homme, il s'appelle Lazare. Ouais. Et vous avez remarqué avec moi, quand Lazare est sorti du tombeau, il était lié de bandelettes de la tête aux pieds. Hein. C'est comme ça que la Bible nous le présente. Et à ce moment-là, Jésus a ordonné à ceux qui étaient là, il a dit cette parole, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Ouais. Alors vous savez, quand on sort d'entre les mains du divin potier, je dis que ce que tous les hommes ont appelé la liberté n'est pas la liberté. Déliez-le. Donnez-lui l'affranchissement et la liberté. Et laissez-le aller. Vous savez que si Dieu nous appelle, et si Dieu nous a pris entre ses mains, ce n'est pas pour que nous soyons ses esclaves, que nous soyons robotisés, que nous soyons là tout simplement eh bien, comme des serviteurs. Nous sommes plus que ça, nous sommes bien au-delà de ça. Nous ne sommes même pas ça du tout. Nous sommes ses fils, ses filles. Et quand il nous délivre, quand il nous délie, quand il nous libère, quand il nous affranchit, c'est pour que nous puissions aller. Et vous savez dans quelle direction nous allons? Ouais, on ne va pas vers le bas, on va vers le haut. Oui, parce que nous en connaissons le chemin, Jésus le dit d'ailleurs. On lui pose la question. Il lui dit, mais vous en connaissez le chemin. Alors je crois que ces mots, déliez-le et laissez-le aller, résument finalement l'œuvre de Jésus, tout simplement. Parce que lorsque nous voyons comment il faisait hier et quand même comme il est capable encore de faire aujourd'hui, c'était justement un souffle de vie qui apportait la vraie liberté. Et nous voyons que à combien de personnes il a donné une seconde chance ou tout simplement sa grâce. Que ce soit des malades qui étaient au bout de leur maladie, que ce soit des gens tourmentés, des gens qui avaient faim, des gens qui se trouvaient dans des situations épouvantables, nous voyons que Jésus a répandu tout cela pour en faire finalement des nouvelles créatures. Est-ce que quelquefois, nous-mêmes, on n'aimerait pas effacer quelques souvenirs de notre passé et de pouvoir recommencer? Il y a des choses qui nous maintiennent, hein, qui nous tiennent, choses qui nous ramènent toujours à la culpabilité et dont le diable, lui, appuie sur le tour pour que ça aille plus vite, naturellement. Alors, qui que nous soyons, quelle que soit notre faute, ou la faute, ou les fautes que nous avons commises, que nous soyons grands ou que nous soyons petits, que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, que nous soyons humbles ou puissants, nous sommes tous faits, je le rappelle, d'argile, mais cette argile-là est susceptible, finalement, c'est vrai, de se détériorer, mais d'être récupérée et d'être repris en sous-main pour devenir des êtres nouveaux. Et ça, c'est véritablement ce que nous avons besoin de savoir, entre ses mains. Il y a parfois des hommes qui pensent qu'ils sont d'une meilleure pâte, hein. Mais c'est eux qui le pensent, tout simplement. Jésus en a rencontré, hein. Quand on voit un peu ces confrontations avec les pharisiens, avec les autorités religieuses de Jérusalem qui se prenaient, ils pensaient être de meilleure pâte. Mais moi, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de meilleure pâte les unes que les autres. Oui. Parce que il n'y a que les statues qui sont de marbre. Et vous savez, quand elle est moulée, hein. Et nous ne sommes pas appelés à être des statues. Nous sommes des êtres vivants. Vous avez certainement vu dans les musées ou tout simplement autour de nous, hein, il y a des statues en bronze, il y a des statues en plâtre, il y a des statues... je ne peux pas vous sortir tous les matériaux, mais une fois que c'est fait, hein. Voilà. Si le sculpteur lui coupe une oreille, il va falloir qu'il se débrouille pour en mettre une autre, hein. Ouais, c'est irréversible, hein, c'est comme ça, hein. Mais vous savez, nous ne sommes pas appelés à être des statues. Encore moins des statues de marbre, parce que je vais vous dire ce que c'est que le marbre. Ça ne passe jamais dans la main du potier, hein. Parce que le marbre, c'est une matière froide, triste, et figée, et pour toujours dans sa forme, sans souffle de vie, et sans oreille pour entendre, et sans voix pour chanter. Et c'est bien tout cela, tout le contraire que Dieu veut faire avec nous. Que nous puissions être vivants, que nous puissions être, en tant que chrétiens, un souffle de vie, portant la joie, portant la paix, et donnant autour de nous, eh bien là, finalement, le reflet de celui en qui nous avons cru. Et ça, c'est formidable. Et je vous rappellerai que nous sommes le sel pour donner soif et que nous sommes la lumière pour éclairer. On n'est pas des statues de marbre. Il nous a fait vivants. Alors, pour nous dire tout simplement que dans le projet de Dieu, dans ce que Dieu a prévu pour nous, dans sa prévision, elle comporte une possibilité merveilleuse de changement. Ça, c'est formidable. Moi, je me dis, quand j'entends ça, moi, je me connais peut-être pas totalement, mais un petit peu. Je me dis, Seigneur, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Quand surtout qu'il a à peu près 6 500 000 Alain, ou Aline. Comment fait-il? Ça, c'est sûr, hein. Alors, c'est difficile tout ça, hein. Mais je me dis, mais Seigneur, toi, tu as la réponse à tout ça. Alors ce potier qu'est Dieu, ce maître potier, a le pouvoir de nous prendre dans ses mains expertes, dans la mesure où nous sommes bien au milieu. Et nous savons que là, nous sommes en sécurité. Il peut y avoir toutes sortes de dégradations, toutes sortes de dépravations, toutes sortes d'ennemis, d'une manière ou d'une autre, hein, devant, derrière, partout. Mais il nous a fait une promesse. C'est Jésus qui nous l'a dit. Nul ne les ravira de ma main. Dans la mesure où nous sommes au bon endroit, au bon moment, sur le tour du potier. Alors, ne nous décourageons pas. Peut-être que quelquefois nous subissons toutes sortes de pressions en disant « Mais Seigneur, je t'avais promis que je ne pécherai plus. » Seigneur, je t'avais dit que ça serait mieux cette année. Seigneur, je me bagarre contre ceci et cela, et quand je suis devant toi, je m'aperçois que tout honteux, je dis « Mais j'ai encore fait ce qu'il ne fallait pas. J'ai encore échoué, Seigneur. » Oui, j'ai encore échoué. Eh bien, écoutez, vous n'y arriverez jamais avec vos mains. Moi, je ne pourrai pas refaire l'argile que je suis. C'est pas possible. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Mais pas n'importe qui. Pas un amateur. Pas un bricoleur. Oui, comme toutes les systèmes et méthodes religieux, philosophiques et tout ce que vous voudrez, où on essaie soi-même de se refaire une forme ou de se remettre en forme. Oui. Mais le Seigneur n'est pas là pour nous mettre en forme, il veut changer le fond. Ça, c'est tout à fait différent. Il change le fond. Alors, ses mains sont là pour nous fortifier et nous façonner comme il l'a prévu. Et tout simplement, est-ce que nous ne pourrions pas lui demander aujourd'hui, « Mais Seigneur, donne-moi encore ta grâce. » Si vous permettez, je vais dire encore la chose, elle est peut-être très mondaine, mais Seigneur, donne-moi encore, donne-moi toujours ma chance. Donne-moi ta grâce en permanence. Ouais. Alors la conclusion, ce pourrait être ceci, une parole que vous connaissez. Il est dit ceci, vous allez l'identifier, c'est dans Matthieu chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigués de vous refaire, fatigués de vous transformer, fatigués de nous relooker, de nous remaquiller, ouais, de nous refaire une autre vie, avec que du préfabriqué. Parce que vous tous qui êtes chargés, alors le maître potier nous dit ceci, eh bien je vous réparerai, c'est moi qui l'ai inventé ça, mais je vous réparerai, je vous restaurerai, je vous consolerai, je vous guérirai. Alors, celui qui a dit « L'Éternel est mon berger », on ne pourrait pas dire, en paraphrasant, « Mais l'Éternel est mon potier ». Eh oui, l'Éternel est mon potier, je ne craindrai rien. C'est vrai. Et quand même, je traverse la vallée de l'ombre de la mort lorsqu'il me passe dans son four pour me finir, pour brûler toutes les scories et tout cela. Eh bien, nous n'avons rien à craindre, parce qu'il est avec nous, tout simplement. Alors, je vous laisse simplement cette réflexion ce soir. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle vaut ce que l'Esprit nous dit. Par-delà les paroles humaines, je crois qu'il y a aussi un véritable sens pour chacun d'entre nous de dire, « Eh bien, Seigneur, oui, je regarde à toi, je te fais confiance, je me remets entre tes mains, Seigneur, parce que tes mains, elles sont divines, et tu sais ce que tu veux faire, parce que tu as tout prévu. » Tu as tout mis déjà en avance pour réussir. Alors réussir avec le Seigneur, eh bien, c'est précisément la plénitude de sa volonté et que nous puissions être à sa gloire et être aussi une bénédiction pour encourager les autres, ceux qui se désespèrent et qui disent « j'y arriverai jamais ». Eh bien, c'est très bien qu'ils n'y arrivent pas. Parce que quand ils auront renoncé d'y arriver par eux-mêmes, eh bien, ils iront voir dans la maison du potier qui va les reprendre et qui va les refaire, qui va les refaçonner pour devenir les uns et les autres des vases d'honneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons, Père éternel, que tu es venu vers les hommes, non pas pour jeter cette argile, mais pour le prendre sur ton tour et faire de nous, Seigneur, en effet, eh bien, des vases d'honneur, des hommes et des femmes qui auront le caractère même, qui auront l'image, la pensée, eh bien, de ce qui était prévu, Seigneur, par le grand, le divin, le maître potier. Seigneur, nous savons que les uns et les autres, nous sommes tous uniques. Nous avons tous l'empreinte d'une grâce particulière dans notre vie, avec certes, Seigneur, et bien peut-être des capacités, des dons, des talents, mais Seigneur, nous sommes tous uniques. Et nous savons, Seigneur, que ces vases, tu les prends les uns après les autres. Tu les attires à toi. Tu nous prends, Seigneur, souvent comme une masse malheureuse, une masse de chagrin, une masse de peine, de péché, de honte, de culpabilité, de toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes ni belles. Et Seigneur, tu nous reprends. Alors nous n'avons pas à nous poser, nous, les questions qui sont les tiennes, mais tout simplement te dire, eh bien Seigneur, je viens à toi. Moi, je suis en effet ce vieil Adam qui est mort dans le mal. Mais nous voulons maintenant croire que tu as donné une nouvelle création, une nouvelle, en effet, une rédemption à travers ce nouvel Adam qui n'est autre que Jésus-Christ en qui je peux mettre toute ma confiance, toute ma foi et toute mon espérance. Merci Jésus. Merci, tu bénis en effet mes amis qui entendent ta parole. Tu les bénis Seigneur et qu'ils ne se désespèrent pas de croire que lorsque nous sommes entre tes mains, posés sur ton tour, eh bien tu fais de nous, en effet, eh bien Seigneur, selon ta pensée, selon ton idée, Seigneur, des êtres qui ont été transformés, changés, Seigneur, selon ton reflet, et que nous puissions porter ton empreinte, celle de, en effet, du ciel. Merci Jésus. Amen.